Nous en sommes au deuxième jour de la retraite. Et j'aimerais, au cours des deux prochains jours, explorer avec vous les quatre nobles vérités du bouddhisme. Quelles sont ces quatre nobles vérités? Il y a la souffrance. Il y a une origine de la souffrance. Il y a la cessation de la souffrance. Il y a une voie qui mène à la cessation de la souffrance. La tradition raconte que le premier sermon du Bouddha, prononcé au parc des Gazelles à Bénarès en Inde, avait pour contenu principal les quatre nobles vérités. Dans tous les pays où le bouddhisme s'est depuis répandu, en Chine, au Japon, au Tibet, en Corée, en Thaïlande ou ailleurs en Asie, et plus récemment en Occident, on en retrouve l'écho. Dans les textes et les écritures, dans les temples et monastères, dans l'intimité des ermitages, où quelques personnes s'assoient ensemble en zazen, dans les chants que nous chantons chaque jour dans nos retraites, dans nos silences attentifs, dans notre pratique soutenue et vigilante, on entend partout l'écho de ces quatre nobles vérités. Mais c'est dans notre vie personnelle, dans l'intimité de notre vie ici et maintenant, que cet écho peut se faire entendre le plus clairement. Les quatre nobles vérités parlent en effet de la souffrance, des causes de la souffrance, de la cessation de la souffrance et du sentier octuple, c'est-à-dire de la voie à suivre dans notre vie quotidienne pour que notre pratique devienne véritablement vivante et libératrice. Les quatre nobles vérités parlent en fait d'un malaise de vivre que nous connaissons toutes et tous, une sorte d'incapacité que nous éprouvons à être véritablement satisfaits et en paix avec nous-mêmes, avec les autres ou avec les circonstances de notre vie. C'est la première noble vérité. La vie est indissociable de la douleur et de la souffrance. Rappelez-vous ici l'histoire du jeune prince Siddhartha. À l'âge de 29 ans, il quitta le palais de son père, où il avait jusque-là toujours vécu, pour s'en aller comme un moine errant sur les routes poussiéreuses de l'Inde. Pourquoi quitter ainsi la richesse, le confort, une vie d'aisance et de luxe? Pourquoi celui qui allait devenir le Bouddha a-t-il un jour tout laissé derrière lui pour s'aventurer avec incertitude vers une vie de pauvreté et de solitude? La tradition raconte que depuis sa naissance, Siddhartha n'avait jamais quitté le palais de son père. À sa naissance, un devin avait prédit au père que son nouveau-né deviendrait soit un grand prince, soit un pauvre moine errant. Le père, soucieux d'éviter à son fils une vie d'errance et de pauvreté, prit la décision d'isoler son fils dans l'enceinte du palais. Il lui procura tous les plaisirs qui pouvaient s'acheter et fit en sorte que tous les soucis de l'existence lui soient épargnés. L'histoire nous dit cependant que Siddhartha en vint à se sentir prisonnier d'une telle vie. Il voulut un jour connaître l'existence de ceux et celles qui vivaient à l'extérieur du palais. Il fit venir son cocher, et dans le plus grand secret, ils quittèrent de nuit le palais. On peut facilement imaginer l'excitation et la curiosité du jeune prince. Qu'allait-il découvrir? Dans l'obscurité des rues étroites de la ville, ils rencontrèrent d'abord un homme malade. puis un vieillard, et enfin un cadavre. Le prince ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il questionna son cocher et ce dernier lui expliqua que tous les êtres vivants connaissaient un jour ou l'autre la maladie, la vieillesse et la mort. Ils rencontrèrent enfin un moine qui souriait sereinement depuis le bord de la route. Siddhartha lui demanda pourquoi il ne semblait pas préoccupé par la vie comme les gens autour de lui, et le moine lui répondit qu'il poursuivait une vie de non-attachement et de sérénité. Jusque-là, au palais de son père, on avait soigneusement épargné au jeune prince les misères de la vie humaine, et il n'avait jamais côtoyé ni la maladie, la vieillesse ou la mort. Il en fut profondément terrifié. C'était donc là ce qui attendait tous les êtres vivants. Siddhartha comprit pour la première fois que la maladie, le vieillissement et la mort étaient des compagnons qui ne nous quittaient jamais dans cette vie. Ils ne pourraient jamais en être protégés. Comme l'écrit M. Lowe, chacun de nous connaît bien ses fidèles compagnons qui nous accompagnent partout. Le matin au déjeuner, en nous rendant au travail, en écoutant la télévision, au lit la nuit. Ils sont là, patients, mais toujours présents. Un cancer, un infarctus, un AVC, une auto qui dérape, une fuite de gaz, un incendie, une échelle mal appuyée. Et ils ne portent pas toujours les lourds habits de la guerre, de la famine ou de la mort. Nous ne pouvons jamais leur échapper, et le jour viendra où ils seront là. Posez-vous la question, se pourrait-il ici même, dans votre propre vie, que vos espoirs, vos rêves et tout le reste viennent masquer votre peur profonde d'être perdu en exil, loin de votre foyer? Siddhartha découvrit ce jour-là que sa propre vie était indissociable de la douleur et de la souffrance. L'angoisse qu'il en ressentit lui fit quitter le palais de son père. Il était perdu, en exil, loin de son propre foyer. Mais il abandonnait tout cela avec l'espoir de se libérer de l'angoisse qui venait d'apparaître en lui. Il ne pouvait tout simplement plus continuer à fermer les yeux et à vivre comme il l'avait fait jusque-là. Il emprunta la voie des moines errants qui sillonnaient depuis des siècles les chemins de l'aide. Il en va de même pour nous. Rien ne peut nous épargner les douleurs et l'impermanence de l'existence. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous l'avons vu. Voyez ce qu'en dit le Bouddha. La naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la maladie est souffrance, la mort est souffrance. Être uni à ce que l'on n'aime pas est souffrance. Être séparé de ce que l'on aime est souffrance. Ne pas obtenir ce que l'on désire est souffrance. Les cinq agrégats d'attachement, ce que l'on appelle les cinq skandhas dans le bouddhisme, à savoir le corps, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience, sont aussi souffrance. Rien ne peut nous mettre à l'abri des échecs ou de l'injustice, des pertes matérielles et financières, de l'éloignement ou de la séparation, voire même du décès de ceux ou celles que nous chérissons, ou de toutes les autres circonstances fâcheuses qui jalonnent l'existence humaine. Rien ne peut ultimement nous en protéger. Parlez-en aux hommes, aux femmes et aux enfants de Gaza qui meurent sous les bombes. Parlez-en aux victimes juives des nazis et du Hamas. Parlez-en à tous ceux et celles qui meurent en Ukraine. Pensez aux deux guerres mondiales du siècle dernier. Voyez autour de vous tous ceux et celles qui souffrent de la pauvreté ou qui sont victimes de maladies ou de dépendances débilitantes. Ou pensez à ceux et celles qui vivent dans l'itinérance, sous le regard indifférent des autres. Regardez votre propre vie ou celle de vos proches. Que voyez-vous? La douleur, la souffrance, l'insatisfaction, l'imperfection, l'impermanence, le conflit, l'incertitude attachée à l'existence ou notre tendance à demander à la vie ce qu'elle ne peut nous donner. Tout cela fait partie du tissu même de notre existence. Dans la langue pali, qui est celle des premiers textes bouddhistes, la douleur et la souffrance se traduisent par dukkha. Et dukkha est universel. C'est une expérience que nous partageons tous. N'importe lequel d'entre nous souffre, où qu'il soit. Les êtres humains souffraient par le passé dans l'Inde antique. Ceux et celles qui habitent le monde d'aujourd'hui souffrent aussi. Et tous dans le futur continueront à souffrir. Dukkha signifie aussi incapable de satisfaire ou incapable de soutenir quoi que ce soit, toujours changeant, incapable de nous donner satisfaction ou de nous rendre heureux. Nous cherchons la joie là où il est impossible de la trouver. Des plus privilégiés ou plus démunis, n'importe lequel d'entre nous, où qu'il soit, fait l'expérience de la souffrance et de l'insatisfaction. C'est un lien qui nous relie tous les uns aux autres, quelque chose qui est familier à chacun d'entre nous. Certains disent parfois, « Je souffre, je ne veux pas souffrir. Je médite pour ne plus souffrir, mais je continue à souffrir et je ne veux pas souffrir. Comment faire pour échapper à la souffrance? Que puis-je faire pour m'en débarrasser? » Mais la première noble vérité ne dit pas « Je souffre et je veux que ça s'arrête. » Elle dit simplement « Il y a la souffrance. » C'est cela, la révélation. La vie humaine est indissociable de la douleur et de la souffrance. C'est là la première noble vérité. Le Bouddha dit encore que cette réalité de dukkha, de la souffrance, est la seule vraie question spirituelle. Le Bouddha a toujours refusé de répondre à des questions spéculatives, théologiques ou métaphysiques. Il les laisse de côté. Ce qu'il enseigne, c'est uniquement la souffrance et la fin de la souffrance. La deuxième noble vérité nous dit que la souffrance a une origine. Nous souffrons parce que nous sommes humains. Un jour, lors d'une rencontre individuelle, M. Lowe m'a tout simplement dit « Ta souffrance n'est pas personnelle, elle est humaine. » Qu'est-ce que cela veut dire? simplement que la souffrance est impersonnelle. Elle trouve son origine dans l'attachement au désir. Et cet attachement au désir est universel. Nous ignorons tous qui nous sommes. Nous sommes avides de réaliser tous nos désirs et nous détestons tout ce qui s'y oppose. Dans la langue pali, le mot désir se traduit par tanha. C'est par exemple l'appétit pour les plaisirs des sens, la recherche de ce qui les excite ou les stimule. Cette poursuite sans joie du plaisir qui nous amène si aisément à multiplier nos désirs, les renouvelant sans cesse et les abandonnant aussitôt qu'ils sont satisfaits. Tanha, c'est aussi le désir de devenir. Par exemple, je veux méditer pour être libéré de mes angoisses. Je veux atteindre l'éveil. Je veux devenir une meilleure personne. Je veux réaliser la libération sans avoir à obéir à qui que ce soit et sans avoir à m'imposer la moindre discipline. Je veux avoir une épouse et des enfants ainsi qu'un emploi bien rémunéré. Je veux profiter de tous les plaisirs des sens, ne pas devoir renoncer à quoi que ce soit, mais devenir aussi un être totalement libéré. Et lorsque nous sommes désenchantés de devenir quelqu'un d'autre, apparaît un autre visage de Tanha, le désir d'éliminer. Je veux me débarrasser de ma souffrance. Je désire me libérer de ma colère. J'ai tendance à m'emporter et je veux que cela cesse. Je souhaite me délivrer de la jalousie, de la peur, de l'anxiété. L'appétit pour les plaisirs des sens, le désir de devenir autre que ce que l'on est et le désir d'éliminer en nous ou autour de nous ce qui entrave notre bien-être. Ce sont tous là différents visages du désir. Et c'est l'attachement au désir qui est à l'origine de la souffrance. S'attacher au désir, cela veut dire penser qu'ils sont à moi, qu'ils m'appartiennent et font de moi un être distinct et unique, différent de tous les autres. Nous brandissons alors nos désirs aux yeux des autres, comme les bannières de notre identité personnelle. Et nous nous sentons humiliés et vexés si la réalité nous empêche de les satisfaire ou si les autres n'y prêtent pas attention ou se moquent de nous. C'est l'illusion du moi qui cause notre peine, écrit Maître Aquin. Mais nous n'avons rien d'autre, n'est-ce pas? Nous nous débattons pour être quelque chose dans le monde et aux yeux des autres. Nous voulons être ceci ou cela. Et nous ne voyons pas que c'est ce désir même d'être quelque chose ou de devenir ceci ou cela qui nourrit et perpétue notre souffrance. Nous tournons en rond au milieu de tous ces désirs et ils s'accumulent en nous, se contredisant les uns les autres et nous laissant fatigués et désespérés de ne jamais trouver un peu de paix dans notre vie. Que pouvons-nous faire? Continuer à souffrir est-il la seule issue possible? Non, bien sûr. Mais il nous faut cesser de fuir l'humiliation. Voyez ce qu'en dit Hubert Benoît dans son livre « La doctrine suprême ». Toute souffrance en nous humiliant nous modifie. Mais cette modification peut être de deux sortes radicalement opposées. Si je me débats contre l'humiliation, elle me détruit, elle aggrave ma souffrance. Si je la laisse faire sans la contrarier, elle construit mon harmonie intérieure. Laisser faire l'humiliation consiste tout simplement à reconnaître devant soi-même qu'on est humilié. Laisser faire l'humiliation, c'est ne rien refuser et ne rien retenir. Nous souffrons parce que nous refusons de nous dessaisir de nos désirs, c'est-à-dire de les laisser passer. Nous fermons le poing sur nos désirs. Nous exigeons dans notre folie ordinaire que la réalité vienne les satisfaire et que les autres en tiennent compte. Lorsque l'on voit vraiment l'origine de la souffrance, l'on réalise que le problème est l'attachement au désir et non le désir lui-même. Quand nous prêtons vraiment attention aux désirs, en les contemplant, c'est-à-dire sans les refuser ni les retenir, nous leur permettons simplement d'exister tels qu'ils sont. Et si nous n'intervenons pas, ils se libèrent d'eux-mêmes. Nous voyons alors que l'origine de la souffrance peut être laissée de côté, abandonnée. C'est l'illusion du moi qui cause notre peine, nous dit Maître Aquin. Nous le chantons chaque jour lors de nos retraites. Cette illusion du moi dont parle Maître Aquin, c'est l'attachement au désir. Lorsque vous êtes en zazen, laissez les choses être ce qu'elles sont. Si vous cherchez à les modifier, vous ne faites qu'ajouter de nouveaux désirs auxquels vous vous attachez. Laissez les choses suivre leur cours est très différent de vouloir les changer ou les rejeter. On les laisse de côté, tout simplement. Cela revient à les déposer et les laisser être. Si vous ne refusez rien, vous entrerez inévitablement en contact avec l'humiliation. Vous verrez comment vous vous faites souffrir vous-même. Vous découvrirez en les laissant monter en vous vos propres exigences, vos vexations, vos humiliations, vos prétentions et vos plaintes indignées. N'en retenez rien. Laissez-les simplement vous traverser et se libérer dans votre respiration. Vous en viendrez ainsi à les connaître intimement, par expérience. Reconnaissez devant vous-même que vous êtes humilié et lâchez prise. Ne cherchez pas à changer quoi que ce soit. Posez les choses doucement, sans aucune aversion. Lâchez prise, laissez les choses comme elles peuvent être, obéissez à la nature des choses et vous êtes en accord avec la voix, nous disent les enseignements du Zen. Il n'est pas nécessaire d'analyser interminablement nos expériences, ni même d'essayer de les comprendre. Il suffit simplement de cultiver la pratique, de laisser les choses suivre leur cours, de ne pas s'en saisir, de les laisser de côté, et d'avoir l'humilité de le refaire mille fois, sans rien exiger d'autre. Cette habileté lentement mûrie à contempler ce qui se manifeste en nous et autour de nous sans s'y opposer, ou tenter de le retenir nous amène un jour à être ouvert à l'existence dans sa totalité, que ce soit l'excitation ou l'ennui, l'espoir ou le désespoir, le plaisir ou la douleur, la fascination ou le dégoût, le début ou la fin, la naissance ou la mort. Nous devenons capables de l'accepter tout entière, au lieu de simplement nous absorber dans l'agréable et éliminer le désagréable. Pour y arriver, il nous faut aller vers Dukkha et contempler notre propre souffrance, admettre la souffrance qui existe dans le monde et la reconnaître sous toutes ses formes. Ainsi, on ne réagit plus seulement de la façon habituelle, qui consiste à se complaire dans la souffrance ou à vouloir la supprimer. L'on devient un avec la souffrance, et notre compassion envers nous-mêmes et les autres grandit. Voilà pourquoi M. Lowe me disait autrefois, « Ta souffrance n'est pas personnelle, elle est humaine. » Quand nous prêtons vraiment attention aux désirs, que nous les contemplons réellement, nous cessons de nous y attacher. Nous leur permettons simplement d'exister tels qu'ils sont. La souffrance peut alors être laissée de côté, abandonnée. L'on peut alors mieux prendre soin de soi et des autres. La troisième noble vérité est celle de la cessation de la souffrance. Nous en parlerons demain et nous parcourrons aussi le sentier octuple qui permet de rendre notre pratique vivante et libératrice dans notre vie quotidienne. Merci d'avoir écouté si attentivement.